Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission, cette merveilleuse journée, effectivement, comme disait mon collègue des nouvelles, quelle belle journée. On va tout prendre, les amis. On va prendre la belle neige, on va prendre le soleil et on a tout un programme à vous proposer. Évidemment, on va revenir sur la nouvelle du jour. Là. Comment y a-t-il pu avoir erreur sur la personne de M. Mamadi Farah Camara? Arrêt des procédures, vous avez vu ça hier, branle-bas de combat, parce que là, tout le monde essaie de comprendre ce qui a pu se passer. C'est pas la première fois qu'on se trompe de personne dans un cas où c'est pas clair. On aura l'occasion d'en reparler en deuxième heure d'émission avec des invités, puis je vous inviterai d'ailleurs à réagir à ça, voir qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui a pu amener les policiers à emprisonner quelqu'un comme ça pendant 6 jours, en pensant qu'il était... responsable d'une attaque contre un policier. Bref, il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions là, qui vont devoir... qui méritent d'être répondues. Évidemment, les proches veulent des excuses. On peut se mettre à la place de la famille là, et de cet homme-là. Ça n'a pas dû être réjouissant là, d'être dans ses chaussures. Les policiers vont devoir répondre. On en parle tous ensemble tout à l'heure. Évidemment, aujourd'hui, c'est la Fondation québécoise du cancer qui nous le rappelle. C'est la Journée mondiale contre le cancer. Et sincèrement, je voulais qu'on revienne là-dessus. C'est un sujet important, vous savez. Au cours des dernières semaines, on a entendu des voix scientifiques, des médecins, des oncologues, ceux qui travaillent avec les patients, nous dire « Attention, là, le nombre de diagnostics de cancer va diminuer parce qu'on n'est pas capable de voir des nouveaux patients ». On estime à peu près là, que le nombre de diagnostics a diminué de 25 % dans certains domaines de l'oncologie à cause de la COVID. On est même allé jusqu'à dire, est-ce qu'on priorise bien assez les autres maladies par rapport à la COVID qui a pris toute la place? On a entendu des voix dire, est-ce qu'on ne devrait pas reviser nos priorités? Est-ce que la COVID devrait rester notre priorité numéro un? Alors que dans le fond, la première cause de mortalité au Canada, au moment où on se parle, ça reste les cancers. Alors, c'est de ça dont je vais vous parler ce matin. Je sais que vous êtes nombreux à vivre cette situation-là. Si c'est pas vous, c'est un de vos proches, c'est peut-être un ami, c'est une de vos connaissances. On dit qu'au Canada, là, il y a une personne sur deux, donc la moitié de tous les citoyens canadiens, ça nous inclut Québécois, vont subir un cancer. Une personne sur deux. Il y a quelques années, on disait que c'était trois. Là, c'est rendu une personne sur deux. Imaginez, vous êtes avec quelqu'un à côté là, en ce moment, là, ben, c'est vous ou l'autre. Ça, c'est pas drôle. En même temps, on ne veut pas être alarmiste. On va parler à un oncologue tout à l'heure qui est bien au fait de ce qui se passe. Il y a des choses intéressantes à nous dire. Mais puisque c'est son anniversaire et qu'en plus, elle est un exemple fabuleux, puis j'allais dire inspirant, d'une personne qui vit avec le cancer. Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui vont sans doute le témoigner au cours de la prochaine heure. On vit avec le cancer. Là. Parfois, on vit même longtemps et c'est une bonne nouvelle parce que les traitements ont quand même été améliorés. Il y a moyen de vivre aujourd'hui avec le cancer et de pouvoir avoir une vie malgré tout décente. C'est le cas de mon invitée Nathalie Prudhomme qui combat un cancer généralisé depuis 2005. Ça fait donc 16 ans. Merci d'être là, Nathalie.
Allô, Isabelle. Ça me fait tellement plaisir de te parler aujourd'hui. En plus, là, il fait beau dehors, il y a un beau soleil.
Et en plus, c'est ton anniversaire.
Oui.
Alors, un très joyeux anniversaire à toi, Nathalie. Je voulais qu'on se parle parce que d'abord, on se parle depuis des années. On est devenus presque copines hein, à force de se parler puis de prendre de tes nouvelles. Je pense que les gens te connaissent bien aussi. Tu es très suivie sur les réseaux sociaux. Tu as tout un mouvement de sympathie derrière toi. Ton histoire est intéressante dans la mesure où tu es très résiliente, hein, un mot qu'on a appris au cours des dernières années à conjuguer. Toi surtout, parce que depuis 2005, tu combats ce cancer du sein qui a commencé donc il y a 16 ans, comme ça, stade 3 tout de suite, tu n'avais aucun autre symptôme. Et là, depuis 16 ans, ben, tu vis avec ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette pandémie où finalement, là, les gens le voient bien, oui. Là, on n'accorde peut-être pas assez suffisamment d'importance au traitement du cancer. Comment tu le vis, toi, Nathalie?
Ben moi, ce que je peux dire, puis ce que j'entends beaucoup, parce que les gens, ils m'écrivent beaucoup, tu le mentionnais tantôt, sur les médias sociaux, les gens ont besoin de parler, les gens ont besoin d'être rassurés. Depuis un an, on entend beaucoup parler d'anxiété, que la pandémie, ça crée vraiment beaucoup d'anxiété et de dépression chez les gens. Mais quand tu as un diagnostic de cancer, puis qu'en plus, tu peux pas voir ton équipe médical, parce qu'on parle vraiment d'une équipe, ben, ça crée vraiment beaucoup d'anxiété. Tu sais, moi, je combats depuis 16 ans, donc j'ai adapté une hygiène de vie, puis j'ai des petits trucs au quotidien pour m'éviter justement de vivre ces choses-là. Mais quelqu'un qui vient d'avoir un diagnostic ou qui le vit depuis peu, c'est très, très difficile de pas avoir accès facilement à son équipe soignante. C'est très angoissant, beaucoup d'anxiété.
Ouais, et toi, tu n'as pas vu ton oncologue depuis un bout de temps, hein?
Ben moi, je l'ai pas vu depuis un an. C'est sûr que si je sens quelque chose de vraiment grave, je vais insister, puis j'imagine qu'il va me dire oui, mais je l'ai pas vu depuis un an. Puis l'année passée, quand la COVID est arrivée, j'ai dû arrêter un traitement de chimio parce que il y avait des cas de COVID à la Cité de la Santé. Moi, je suis suivie à Laval. Et puis, de commun accord, par exemple, moi et mon oncologue, on a décidé, ben, on va sauter cette chimio-là parce que c'est trop dangereux que tu viennes à l'hôpital. Ben, tu sais, le scan d'après, là, c'était pas très beau. Les métastases avaient grossi, mais le scan d'avant, tout était stable. Fait que, tu sais, oui, ça apporte beaucoup d'inconvénients aux gens qui vivent le cancer, cette pandémie-là, ça, c'est sûr.
Ouais. Donc, toi, parce que ça fait très longtemps, tu as un accès, ce que tu dirais, presque privilégié et un rapport intense, finalement, avec ton oncologue. Au bout de... Quand ça fait 16 ans, j'imagine que t'en as eu combien d'oncologues? Est-ce que c'est le même qui te suit depuis le début?
Ben non, j'en ai eu quelques-uns, mais celui-ci, je l'ai choisi. Je l'ai choisi parce que c'est vraiment important d'avoir une relation, une belle relation où est-ce que la discussion est ouverte. Tu sais, moi, je suis très naturopathique aussi, là, autant j'aime mon oncologue, autant j'aime mon naturopathe, fait que je voulais avoir un oncologue qui passe pas son temps à m'obtenir. Qui est ouvert d'esprit, mais ça fait depuis 2012, moi, je l'ai quand j'ai. C'est lui qui m'a annoncé mon diagnostic de fin de vie en 2012. Là. Ouais.
Ah, ouais.
Oui.
Et est-ce que tu peux le texter? Est-ce que tu peux l'appeler facilement?
Ah,
est-ce que
non.
Tu peux le joindre facilement, non?
C'est je dois passer par mon infirmière pivot à la Cité de la Santé qui me rappelle en général assez rapidement. Mais j'ai pas accès à lui, là. J'ai pas son numéro de cellulaire, non.
À quoi tu t'accroches, Nathalie?
Ben, écoute, moi, j'ai tellement de projets, j'ai tellement de A, B, en guillemets, qui me font du bien. Ben, mes enfants, déjà en premier. Je me souviens, quand j'ai eu, en 2005, là, quand j'ai eu mon premier cancer, c'était comme, oh mon Dieu, tu sais, mes enfants avaient 5 et 6 ans. Puis je me disais, je verrai pas leur base, je verrai pas aller au secondaire, je verrai pas entrer à l'université, tout ça, tu sais. Je voyais tous les moments qu'on accompagne nos enfants dans la vie, puis je pensais pas être capable de vivre ça. Puis finalement, aujourd'hui, ils sont grands, mes enfants. Puis j'ai vécu plein de moments vraiment remplis de bonheur. Ça guérit, ça aussi, tu sais, ça nous donne la force à aller plus loin. C'est sûr que si je regarde vraiment mon cas à la loupe avec mes traitements, ben puis les statistiques, je me dis ben ça va être fini dans pas longtemps. Mais tu sais, en 2005 là, j'avais vu une oncologue, puis elle m'avait vraiment marquée parce que j'avais vu un oncologue avant, puis il m'avait dit oh mon Dieu, tu sais c'est pas des bonnes nouvelles, c'est pas bon. Puis là, j'étais allée avec ce bagage-là la voir, elle qui est une spécialiste du cancer du sein, puis elle m'avait dit c'est vrai ce qu'il dit, mais tu n'es pas une statistique. Mm. Fait que moi, c'est une phrase là que j'ai transportée depuis 16 ans, puis là, j'ai commencé une nouvelle chimio. Si on regarde les statistiques, ben c'est pas super bon, tu sais, ça dit que ça augmente ton taux de survie de 2 mois. Ben moi, ma dernière chimio, c'était ça aussi, mais j'ai fait 9 ans avec elle.
Ouais.
Tu sais,
ouais.
Fait que je peux dire merci à cette chimio-là, aux chercheurs qui l'ont trouvé. Puis on sait jamais, là, ce qui, tu sais, faut essayer puis prendre tout le positif qu'il y a dans la situation, parce que sinon, tu restes chez vous dans ton lit puis tu pleures.
Oui, effectivement. Écoute, ouais. Je me souviens, Joanne Fontaine s'était fait dire, tu connais Joanne aussi, Joanne
qui a
vécu aussi beaucoup d'années quand même avec un cancer. Des récidives et tout, on lui avait prédit, une médecin, sa première collègue s'était avancée pour lui dire, il vous reste entre comme 9 mois puis un an et demi, mais ça sera pas plus que ça. Puis finalement, elle s'était trompée parce que personne ne le sait. Et c'est sûr que je pense qu'on pourrait débattre longuement du fait que le moral influence, que le fait de ne pas être abattu puis d'avoir un esprit positif. Oui. Ben, on peut parler de plein de choses comme ça. Il y a des médecins qui y croient pas, mais je pense qu'il faut tout essayer, comme tu dis. Mais une chose est...
Oui, ça, c'est un autre volet, ça, les médecins, ils croient pas, parce que tant que tu l'as pas vécu, ça, c'est comme accoucher. Ouais. Tant que t'as pas vécu un accouchement, tu sais pas c'est quoi. Tant que t'es pas dans la tant que t'as pas eu un diagnostic, qu'il faut que tu te battes pour ta vie à chaque seconde, ben, tu peux pas dire ce qui est bon puis ce qui est pas bon, là.
Ouais, effectivement.
Ça, c'est, ouais.
Est-ce que tu penses, on a dit beaucoup de choses en temps de pandémie, évidemment. On se pose la question, puis je la pose aux auditeurs qui vivent peut-être comme toi une situation où eux ou leurs proches ont le cancer, puis on doit composer avec des... Maintenant, là, on parle de soins virtuels. Mais soins virtuels, tu nous l'as bien dit, c'est pas la panacée non plus. Donc, est-ce que tu trouves qu'on accorde au cancer, au traitement du cancer, la place qui leur revient par rapport à la COVID? Je le disais tout à l'heure aux auditeurs, c'est documenté encore dernièrement, je voyais ça. Le cancer, les cancers restent la cause de mortalité numéro un au Québec et au Canada. La COVID arrive troisième, c'est quand même important aussi, mais là, on dirait que la COVID a pris toute la place. Est-ce que c'est un bon pari? Puis on comprend pourquoi, on nous l'a expliqué un peu, là, c'est important parce que si les médecins sont trop occupés par la COVID, ils peuvent plus s'occuper du reste, mais c'est toujours des choix, hein?
Oui, c'est un choix. Tu sais, c'est drôle que tu abordes le sujet parce que ce matin, on disait qu'on va former les médecins à traiter les effets secondaires des gens qui ont eu la COVID. On parlait de ça ce matin aux nouvelles.
Ouais.
Puis moi, j'ai eu la réflexion, oui, c'est super. Tu sais, je comprends tout le l'aspect là, de la santé et tout ça, puis que c'est vraiment un virus épouvantable. Mais tu sais, je me dis, j'avais la discussion avec ma mère, puis j'ai dit, ben moi, là, je vis avec des effets secondaires à tous les jours très handicapants. Mm. Je te donne un petit exemple qui est, j'ai un lymphédème au bras gauche. OK, puis mon oncologue, il m'a dit, ben est-ce que tu as des assurances privées? Parce que ici, à la Cité de la Santé, il y a 4 ans d'attente pour voir un physiothérapeute pour ton lymphédème. Puis moi, j'ai un lymphédème causé par tous les traitements, les prises de sang, les ci, les ça, toutes mes 13 opérations que j'ai eues.
Ouais.
Tu comprends? Fait que les gens qui ont le cancer, on vit avec des effets secondaires permanents, très difficile, mais j'ai rien là pour avoir
ouais.
Tu comprends, j'ai pas personne, j'ai pas une équipe, j'ai pas de place où aller qui peuvent me dire bon, on va t'aider avec ça.
Avec les effets secondaires de chimiothérapie, puis c'est documenté qu'ils sont nombreux. Oui. Alors toi tu dis Nathalie Prudhomme, c'est bien là, qu'on s'occupe des gens qui ont des effets secondaires ou des séquelles de la COVID, genre tous ces gens qui ont perdu l'odorat ou qui ont des douleurs, là, c'est documenté ça aussi, il y en a beaucoup. Mais en même temps, tous ces patients qui ont le cancer depuis des années et qui sont, tu sais, c'est bien beau de voir ton oncologue de temps en temps, mais tous les autres aspects de cette maladie-là, ils sont pas du tout traités là.
Exactement. Puis j'ai pas de référence ou j'ai pas de place au téléphonique qui pourrait m'aider.
Fait que t'es pas mal laissé à toi-même. Là. Fait que c'est bien quand t'as l'énergie, mais les gens qui en ont pas, c'est arrangez-vous, là.
Ben exactement. Je suis laissée à moi-même. Puis tu sais, on parle souvent contre les médias sociaux, mais une chance qu'on a ça parce que ça me permet d'échanger avec plein de femmes puis plein d'hommes qui ont la même maladie que moi. Puis là, ben, on s'échange des trucs puis on essaie de vivre au mieux possible avec tout ça, tu sais. Fait que les médias sociaux sont là pour aider aussi.
Nathalie, tu restes avec nous?
Oui.
On va parler à un oncologue tout de suite après la pause. J'ai envie de te dire, chère Nathalie, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. C'est quand même ton anniversaire. C'est fabuleux, hein?
Oui.
C'est la journée mondiale contre le cancer. Nathalie Prudhomme est avec nous. Et tout de suite après la pause, bien sûr, on va parler à un oncologue, un chirurgien-oncologue qui va nous dresser un peu le portrait de la situation. Il vient de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, un des plus touchés depuis le début de cette pandémie. Il va nous dire comment ils s'en sortent. Bien sûr, vos commentaires là-dessus. On dit qu'un Québécois, un Canadien sur deux va devoir composer, hein, vivre avec le cancer, faire face au cancer. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, en cette journée mondiale contre le cancer, qui disent qu'il faut absolument un meilleur plan pour leur fournir des soins parce que c'est notre prochaine crise nationale. Il va y avoir des impacts incroyables qu'on commence tout juste à peine à mesurer. Nos numéros pour nous joindre, je vais vous entendre aujourd'hui si vous avez été touché par le témoignage de Nathalie, si c'est ce que vous vivez aussi. 514-790-9850. De l'extérieur, vous pouvez faire le 1-866-790-9850. C'est pas déprimant, c'est juste qu'est-ce que vous vivez en ce moment? On veut le savoir. À tout de suite.
Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein. T'as commencé par ses seins, et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens?
Avec nous, le docteur Pierre Dubé, chirurgien-oncologue. Il est également gestionnaire médical du programme de cancérologie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, mais aussi pour tout le CIUS de l'île de Montréal, un endroit qui a été assez touché là, depuis le début de cette pandémie. Docteur Pierre Dubé, merci de prendre le temps. Je sais que vous êtes très occupé. Dites-moi un peu, faisons le point là, sur la situation là, des diagnostics. Il y a les diagnostics, là, les nouveaux cas. On disait là, ce matin, il semble que le nombre de diagnostics de cancer est diminué de 25% dans certains domaines de l'oncologie à cause de la COVID. Pas parce qu'il y a moins de cancers au pays, mais parce qu'il y a moins de possibilités de diagnostiquer les nouveaux cas. Il y a déjà des oncologues qui nous ont parlé d'une augmentation du nombre de cancers à un stade avancé parce qu'ils disent qu'ils n'y arrivent pas là, à traiter tout le monde. Qu'est-ce que vous vivez, vous, docteur Dubé?
Bonjour, Mme Maréchal. En fait, merci de l'opportunité de discuter de ce sujet-là. C'est évidemment une période extrêmement difficile qu'on vit dans les hôpitaux actuellement. Si on parle essentiellement du diagnostic de certains patients aux prises avec des cancers, je vous dirais qu'actuellement, la plus grande inquiétude se situe à ce niveau-là. C'est-à-dire que y a un certain nombre de patients, on le sait, hein, les chiffres parlent, mais un certain nombre de patients qui ont des cancers probablement à la maison et qui tardent à venir consulter parce qu'ils sont inquiets de la situation dans les hôpitaux. Mm-hmm. Évidemment, on a une accessibilité diminuée à certains examens diagnostiques, ce qui rend le diagnostic de certains types de cancers plus difficile et clairement qui est retardé là, pour un certain nombre de patients.
Bien, on sait, c'est sûr que la COVID a affaibli les systèmes de soins de santé, en particulier là, en ce qui concerne les soins oncologiques au Canada. Déjà qu'avant, on le disait, il y avait comme une espèce de point de rupture. Dans certains cas, il y a même des endroits qui étaient complètement dépassés. Alors, c'est sûr qu'avec la COVID, quand la pandémie est arrivée, c'est sûr que ça n'allait pas améliorer. En même temps, quand on nous dit, là, quand des oncologues comme vous disent, bon, bien, il y a une autre crise de santé publique qui s'en vient, puis celle-là, ça va être de faire face au délestage, ce fameux rattrapage dont on nous dit aujourd'hui que ça va prendre des mois. Comment vous allez y arriver, docteur Dubé?
Ben, en fait, je pense qu'il y a un premier message important qu'il faut que je vous fasse ici. Le rattrapage, à quelque part, peut commencer dès maintenant. Il y a à chaque jour des patients qui refusent de venir dans nos institutions parce qu'ils ont peur de contracter la COVID, alors que la plupart des plateaux diagnostiques sont extrêmement sécuritaires. Donc, il est temps que les patients sachent que les milieux sont relativement sécuritaires pour qu'ils puissent venir à l'hôpital consulter s'ils ont des malaises, consulter leur médecin de famille, mais venir surtout aux examens quand des examens sont prescrits. Donc, le rattrapage pourrait à quelque part déjà commencer en partie maintenant. Et je pense que tous les cliniciens, tous les plateaux diagnostiques le vivent. Les patients refusent dans un grand nombre de cas de venir dans les hôpitaux. Pour la suite, évidemment, il va falloir arriver à bien prioriser et il va falloir être capable d'optimiser le système. Je ne sais pas encore comment on va s'y prendre et la situation est liée au fait qu'il y a une pénurie de personnel à la grandeur de la province et c'est le plus grand défi qui devrait être surmonté dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour arriver à prendre en charge nos clientèles.
Mais vous-même à l'hôpital à Maisonneuve-Rosemont, vous avez eu ce problème-là de ressources humaines?
Le problème est très criant. Il n'est pas criant qu'à Maisonneuve. Moi, je peux vous parler de Maisonneuve parce que c'est là où je pratique, c'est là où on essaie de venir en aide aux patients. Le problème est très criant. On a perdu beaucoup de personnel. Et je vous dirais, dans la pandémie actuellement, le personnel qui est frappé le plus durement, c'est le personnel infirmier, les préposés, qui sont sollicités sans arrêt, souvent avec du temps supplémentaire, souvent du temps supplémentaire obligé. On n'a pas le choix. Les patients ne peuvent pas rester en plan quand ils sont pris avec des conditions qui peuvent venir à bout d'eux en quelques heures, quelques jours. Donc, le personnel infirmier est aux prises avec une situation extrêmement difficile. Et j'écoutais dans les nouvelles récemment, j'ai l'impression que les gens pensent que la situation va passer par le privé. Le privé va faire partie de la solution, mais il faut comprendre que notre bassin de personnel est extrêmement limité. Et tout ce qu'on va réussir à ouvrir au privé va se faire avec du personnel en grande partie du public et on va déplacer le problème. Il faut comprendre que dans les institutions, dans les hôpitaux, on traite souvent les patients avec des pathologies plus lourdes, des cancers qui nécessitent des hospitalisations de quelques jours et ça ne peut pas se faire au privé. Il faut qu'on soit capable de faire dans les hôpitaux. Donc, si on ouvre le privé, comme on semblait le penser hier dans certaines entrevues que j'ai écoutées, sans restriction, on va vider nos hôpitaux et on va être pris avec le même problème parce qu'actuellement, je dois vous dire, et très sincèrement, pour le CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal, on est arrivé pendant la deuxième vague à faire en sorte que nos listes d'attente en cancérologie ne soient pas préjudiciables aux patients. Nos gestionnaires ont fait un travail extraordinaire en temps réel, plusieurs fois par jour, en collaboration avec le ministère, parce qu'il ne faut pas croire qu'on agit seul là-dedans et le réseau tente le mieux possible de réagir, même si c'est difficile. Nos listes d'attente actuellement en cancérologie sont relativement sécuritaires pour les patients et on arrive à faire en sorte que nos patients soient traités dans des délais raisonnables. Donc,
mais est-ce qu'il y a eu quand même du délestage de cas de cancer, Dr Dubé, chez vous?
Il y a eu, pendant la première vague, du délestage de cas de cancer et on a appris rapidement comment mieux gérer pour la suite. Et pendant la deuxième vague, je dois dire que nous sommes arrivés à maintenir la cadence, autant dans les cliniques de chimiothérapie qu'au bloc opératoire, à maintenir une prise en charge des patients aux prises avec un cancer de façon sécuritaire. Je pense que nos patients ont été très inquiétés. Et déjà, vivre avec un cancer, c'est extrêmement inquiétant, mais vivre dans un contexte social tel qu'on le vit actuellement, l'inquiétude était double et triple. Par contre, si on regarde d'un point de vue strictement médical, les délais d'attente pour les patients aux prises avec un cancer du sein, un cancer digestif, un sarcome, un cancer du poumon, les délais d'attente pour la très grande majorité des patients, n'ont pas été préjudiciables. Par contre, les patients se sont inquiétés 3 et 4 fois plus que normalement. Et je pense qu'il faut bien comprendre que la gestion des listes d'attente, on ne met pas les patients dans une pile et on passe à travers la pile un après l'autre. La gestion des listes d'attente se fait en priorisant chacun des cas. Donc, les patients pour qui la condition médicale risque de changer, et puis, on pourrait passer, par exemple, à côté d'une chance de le guérir en attendant trop. Ces patients-là ont été priorisés tout au cours de la deuxième vague. Si on prend les cliniques de chimiothérapie pour le CIUSSS de l'Est, on a réussi à maintenir nos volumes parce que tout a été mis en œuvre pour que les patients puissent avoir leur traitement de chimiothérapie dans les délais prescrits. C'est certain qu'un patient qui était aux prises avec une COVID, parce qu'on en a eu beaucoup, ne pouvait pas se présenter à la clinique. Donc, les patients qui ont été malades n'ont pas pu être traités. J'ai des patients que je devais opérer qui se présentaient le matin et qui avaient un test de COVID positif, on ne pouvait pas les opérer. Mais ces patients, les autres patients ont réussi à être pris en charge avec diligence, mais au prix d'énormes efforts. Comme je dis, depuis le début de la pandémie, les intervenants dans le système de la santé, les gestionnaires dans le système de la santé ont fait beaucoup de vélos stationnaires. On a travaillé extrêmement fort, on n'a pas avancé à la vitesse qu'on voulait, mais on a réussi à prioriser les clientèles de cancérologie.
Ouais. Là, évidemment, vous nous parlez, Dr Dubé, de patients déjà dans le système. Après la pause, vous allez rester avec nous. Bien sûr, on va aborder aussi les nouveaux cas. Il y a des sondages qui nous disent quel est l'impact d'une attente, d'un délestage ou de l'annulation, par exemple, ou report d'une consultation en personne ou d'un report d'une chirurgie. Là, il y a quand même des conséquences. On va discuter de ça. Il y a Nathalie qui doit aller faire une prise de sang. Fait qu'on ne voudrait pas retarder tes soins, Nathalie Prudhomme. Merci d'avoir pris le temps. T'entends, t'écoutes le Dr Dubé. On le connaît bien, le Dr Dubé, parce que c'était le fabuleux oncologue de mon amie Joanne, que tu connais aussi, que tu connaissais bien aussi. Fait que Joanne, j'ai beaucoup pensé à elle dernièrement. Ça doit être elle qui nous a mis en lien. Parce que je peux vous dire, les oncologues sont occupés ce matin. On est très chanceux d'avoir le Dr Dubé avec nous. Nathalie, un petit mot avant de te laisser aller.
Bien, merci beaucoup de m'avoir invitée ce matin. Ça me permet de je voulais faire un chapeau bas à toutes les équipes de recherche. Puis, tu sais, on dit que c'est la journée mondiale contre le cancer. On parle beaucoup des patients. Mais moi, je veux vraiment remercier, parce que grâce à eux, je suis en vie. Tous les chercheurs, les oncologues, tout le monde qui dédie leur vie au mieux-être des personnes qui ont le cancer. Alors, je leur fais un gros câlin virtuel.
Ouais, on parle d'une pilule. Oui, certainement, tu as raison. On dit qu'il y a une pilule contre le cancer qui va être en essai clinique bientôt. On ne sait jamais. Tu sais, on court toujours après la pilule miracle en attendant de la voir.
Oui,
faut des modèles inspirants comme le tien, Nathalie. On prendra de tes nouvelles bientôt. Continue de nous en donner sur tes réseaux sociaux. On te suit. Puis, continue de peindre aussi. La peinture a son effet. Hein?
C'est très, très thérapeutique. C'est vraiment bon pour l'humeur, le moral, puis digérer les mauvaises nouvelles aussi.
Voilà. Je t'embrasse, oui. Nathalie. Merci beaucoup d'avoir
Merci
pris le temps.
Merci beaucoup.
Nathalie
Merci.
Prudhomme, donc, qui vit avec le cancer depuis 16 ans. On va s'arrêter ici, 514-790-9850. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850 pour nous joindre. Dites-moi comment vous vivez, vous, avec le cancer. Si c'est vous qui le vivez, bien sûr, on veut vous entendre. Si c'est vos proches, c'est aussi difficile hein, pour la famille. Tout le monde le vit. Une personne qui est diagnostiquée, c'est toute sa famille qui reçoit ce coup-là en même temps. À tout de suite, tout le monde. On se demande aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, si cette pandémie nous force peut-être pas à revoir nos priorités. On a accordé beaucoup d'importance à la COVID au cours des derniers mois. On comprend pourquoi. Les morts s'accumulaient. Ça continue d'ailleurs. Même s'il y a une accalmie qui nous fait espérer la lumière au bout du tunnel, il n'en reste pas moins que pendant ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui ont été négligées, entre autres le traitement des cancers. Normand, vous vivez avec un cancer du côlon. Votre conjointe également a un cancer. Comment ça se déroule pour vous depuis ces mois de pandémie, Normand? Bonjour.
Écoute, bonjour, ça va bien?
Oui.
C'est sûr que ça n'a pas été facile parce qu'on a toujours les peines en haut de la tête. Ben, ça pourrait arriver que des choses soient retardées, probablement. Sauf qu'on ne l'a pas vécu vraiment, nous autres, de ce côté-là. Tu vois, ma conjointe, on s'est mariés l'année passée parce que, ça va faire 2 ans, là. On s'est mariés parce qu'il y avait donné entre 12 et 18 mois de vie, puis on a décidé de se marier, de vivre cette expérience-là ensemble, puis de le faire. Et, écoute, ils sont après la guérir, là, avec un traitement expérimental. Et probablement que si on arrêtait en pandémie, quand elle a commencé, quand on s'est enligné pour ça, on aurait peut-être rentrer un peu plus tard dans le système, mais je suis pas certain. Parce que, comme le médecin disait tantôt, ils vont cas par cas. Elle, là, sa vie était imminente, en danger. Fait qu'ils ont dit, la seule manière, c'est d'aller probablement en immunothérapie avec le CHUM à Montréal. On a réussi à rentrer là pour elle. Et depuis, écoute, ils sont plus capables maintenant de voir, si on veut, son cancer. C'est comme si c'est cicatrisé. Fait que on est encore en protocole, donc on ne sait même pas si elle a de l'immunothérapie ou bien si elle a du placebo. Si du placebo, si sa tête est forte en maudit, mais on pense bien que ça va être le médicament, l'immunothérapie. Mais elle est arrivée au moment de ma vie où moi, je me battais pour la mienne. Elle arrive dans ma vie, puis pas longtemps après, c'est avec elle qu'il faut qu'elle se batte pour sa vie.
Ouais.
Et on continue tout le temps. Fait que c'est sûr que présentement, on a peur de l'attraper, la bébite. Mais, écoute, c'est pas ça qui va nous arrêter. Là, quand on va, elle va au CHUM, maintenant, elle doit y aller seule, je peux pas l'accompagner. Et puis moi, mes traitements sont terminés. Je suis en processus là, de vérification pour dire enfin que je peux commencer à travailler. Mais elle va commencer à travailler un petit peu avant moi. Il l'avait condamné, là.
Ouais.
Tu sais, c'est assez particulier quand tu vois tout ça. Puis c'est sûr que quand on regarde les gens, on espère que ce que nous, on a vécu, puis on est rentré dans la pandémie, on était dedans. Mais ceux qui sont là, qui ont peur, mettons, comme le médecin disait, d'aller se faire diagnostiquer, n'hésitez pas, allez-y. Puis,
je pense que c'est ça, là où le bas blesse, là, visiblement, après tout ce qu'on dit. C'est ça, c'est les nouveaux cas. Là. Ceux qui sont dans le système, c'est comme d'autres choses. Hein. Quand tu es déjà dans le système, ça va. C'est d'y rentrer le problème. Hein. C'est ça que je comprends.
Oui, mais je pense que, regarde, comme moi, il me reste un scan à passer. Là. Mais il n'est pas dramatique, mon scan, là, dans le sens où ça va bien, mon affaire. Ça va quand même bien, on a des choses. Mais comme les médecins m'ont dit, l'hôpital m'ont dit, ben écoute, peut-être au privé, peut-être voir même les assurances. Fait qu'on est en train de regarder ça.
Ouais.
Ma blonde, elle, ben ma femme, elle, c'est toujours de savoir, à toutes les 3 semaines ou 6 semaines, elle a un scan à passer. Elle le fait encore.
Ouais.
Mais sais, comme l'autre jour, on a retardé son traitement, pas parce qu'elle, on a passé des tests pour le COVID qui s'est avéré négatif, on était bien content, mais pas parce qu'on fait pas attention, on fait le plus attention possible pour pas se mettre dans d'autres caca. Mais tu vois, je pense que c'est les nouveaux cas,
les gens
qui ont peur de se présenter ou qui ont peur d'aller se dire pogner un COVID à l'hôpital.
Ouais. Merci beaucoup, Normand. Bonne continuation. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Merci bien d'avoir pris le temps de nous appeler.
Mais
la force du mental. Merci. Céline, bonjour. Vous avez eu un cancer, Céline aussi?
Oui, bonjour Isabelle. C'est dommage que Nathalie soit déjà partie parce que je voulais dire comme combien que je l'aime et combien que je suis tellement solidaire avec elle parce que je la suis sur les réseaux sociaux. Mais oui, j'ai eu un cancer en 2016 et comme je disais à votre recherchiste que mon Dieu, merci d'avoir eu ça au moins en 2016 et non en 2020 ou 2021 parce que je suis de tout cœur avec ces femmes-là ou ces hommes-là qui ont un diagnostic présentement puis que c'est tellement pas facile avec la COVID. Alors, je suis de tout cœur avec ces gens-là. Alors, moi, ça fait 4 ans, ça va faire bientôt 5 ans. Je suis guérie. C'est sûr qu'on a toujours une épée en arrière de la tête. Mais je me dis que, écoutez...
Est-ce qu'on priorise assez les gens qui sont aux prises on parle de prise en charge des nouveaux patients, là. C'est ça, j'ai l'impression.
Ben, c'est ça, c'est les nouveaux patients.
Ouais.
C'est pour ça que j'ai dit Dieu merci que j'ai eu le diagnostic en 2016.
Ouais.
Mais l'avoir présentement, mon Dieu, c'est comme deux combats en même temps.
Ouais. Merci beaucoup, Céline. Merci bien. Jonathan, bonjour. Jonathan, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Dans le fond, comme moi, mon père, il a été diagnostiqué le 15 décembre d'un cancer du poumon. En fait, c'était comme généralisé. Il y en avait jusqu'à dans les vertèbres. Merci, c'est ça. Fait que dans le fond, il est décédé en une quinzaine de jours. Dans le fond, un peu seul à l'hôpital, là, si je peux dire. De la façon que c'est peut-être un petit peu plus, moins positif, là, ce que j'ai à dire, dans le sens. Mais tu sais, comme se faire diagnostiquer ça tout seul, pas de proche. La veille de Noël. T'as pas de support moral. Mon père était 5 jours avec cette nouvelle-là seul. Mon père, il est pas technologique, fait que c'était par téléphone, puis encore là, c'était quand il répondait, quand il sentait, j'imagine, en force de répondre.
Ouais.
Après ça, moi, j'ai pas allé le voir un autre 5 jours, si je veux dire. Quand il est sorti de l'UHB, là, j'ai réussi à avoir un droit de visite, dans le fond, comme humanitaire, si je peux dire, avec ma soeur.
Mm-hmm.
Mais j'ai encore là, mon père, il a jamais pu dire au revoir à sa mère, à ses petits-enfants, à ses frères, ses sœurs, personne.
Ça a été foudroyant, Jonathan.
Ben, je dirais que c'est traumatisant. C'est même pas vivable comme deuil. Là. C'est dur.
Ouais.
Quand on y pense, les gens, ils focusent COVID, COVID, COVID. Puis après ça, tu te ramasses dans des situations comme ça. Juste par exemple, mon père n'a jamais pu se laver avant de décéder parce que pour X raisons à cause de la COVID, ils ont comme cancellé les douches. Ton coloc de chambre déféquait dans une toilette comme mobile, je veux dire portative, pendant que mon père reçoit son lunch. Je veux dire, c'est tous des petits détails qui fait que tu te dis, personne, tu souhaites à personne de passer par là, autrement dit. Là, c'est à la limite épeurant. Là, c'était juste ça que j'avais à dire dans le sens.
Mais merci beaucoup, Jonathan, de nous ramener là, parce que ça, c'est ce que beaucoup de gens ont vécu, malheureusement. Merci, Jonathan. Je me tourne vers le docteur Pierre Dubé. Je vous rappelle qu'il est chirurgien oncologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il est gestionnaire médical du programme de cancérologie au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, qui a été, bon, comme beaucoup d'autres endroits, touché par cette pandémie. Docteur Dubé nous disait là, que bon, le recours au privé, c'était pas forcément la solution pour tous les cas, mais que bon, il s'en était relativement bien sorti. Puis vous parliez du fait que pour les gens qui sont déjà dans le système, docteur Dubé, ben quand même un délai que vous considérez sécuritaire là, pour et non préjudiciable, vous avez utilisé comme mot, là, les listes d'attente. Bon, vous dites, là, vous essayez de rassurer le monde un peu en disant, regardez, si vous êtes sur une liste d'attente, c'est parce qu'on a considéré que ça pouvait attendre un peu. Ce que je comprends, c'est que les nouveaux cas, les nouvelles personnes qui mériteraient d'être diagnostiquées, mais qui ne le sont pas, c'est là où le bas blesse.
C'est important de faire la distinction entre le patient à qui on diagnostique un cancer et le temps que ça prend pour le prendre en charge, et le patient qui est chez lui avec des signes ou des symptômes qui pourraient être compatibles avec un cancer,
ouais,
pour qu'il soit investigué.
Ouais.
Le patient chez qui on diagnostique un cancer est pris en charge rapidement actuellement. Il n'y a pas nécessairement de délai là. Et là où le délai se creuse, c'est clairement avant le diagnostic. Donc, les patients qui, chez qui on découvre un cancer parce qu'ils ont leur scan, ils ont leur mammo, ils ont leur colonoscopie, vont ensuite rapidement être pris en charge. J'aimerais revenir sur un point qui a été soulevé par Jocelyn et par Normand. Et moi, ça me touche au quotidien. C'est-à-dire que un effet négatif de la pandémie, ça a été nécessaire que ça soit comme ça, mais les patients sont seuls en consultation le plus souvent et clairement souvent seuls à l'hôpital. Et ça nous brise le cœur comme soignants d'annoncer des nouvelles qui sont souvent difficiles, et des fins de vie qui sont souvent vécues presque seules. Il y a des aménagements qui peuvent être faits, mais ça a été pour moi un événement, un élément extrêmement difficile à vivre, et je pense qu'on est très nombreux dans le système de santé à avoir dû se soumettre à ça, et on comprend pourquoi il fallait le faire, mais c'est clairement difficile.
Mais là, si on commence à repasser du rouge à orange dans certaines régions, si on commence à un petit déconfinement, est-ce que vous seriez d'accord, docteur Dubé? Êtes-vous d'accord pour dire qu'on ouvre un peu et que les patients qui sont suivis en oncologie puissent être là avec un proche masqué à 2 mètres et tout, on comprend, mais qu'ils puissent être accompagnés?
Clairement, c'est ce qui est maintenant est fait. Mais je vous rappelle que ça fait 11 mois qu'on est en pandémie, donc il y a eu des périodes difficiles, mais il reste que j'ai opéré des patients, j'ai fait des chirurgies de 10 heures et les patients étaient seuls à l'hôpital pendant plusieurs jours dans des moments où c'est très angoissant pour eux. Donc, il y a eu des périodes très difficiles et même en zone rouge actuellement, il y a une certaine réouverture qui a été faite pour des circonstances exceptionnelles. Et les patients peuvent maintenant être plus accompagnés qu'ils l'ont été dans les périodes les plus difficiles, avant les fêtes, entre autres.
Mais est-ce que c'est au bon vouloir du médecin ou de l'infirmière pivot, ou c'est vraiment maintenant toute personne qui est suivie en cancérologie, en oncologie, peut être accompagnée par un proche?
Les directives sont souvent ministérielles ou proviennent de la Direction québécoise de cancérologie. C'est-à-dire que les initiatives ne sont pas locales. Hein. Il y a une coordination qui est faite sur le plan provincial. Et pour la cancérologie, que je connais bien, on a des rencontres assez régulières par Zoom ou téléconférence, où on coordonne nos efforts pour arriver à avoir des politiques qui se ressemblent d'un milieu à l'autre. Donc, on arrive avec un certain argumentaire, on fait valoir nos points, et les directives qui sont émises aux directions hospitalières sont assez uniformes pour un centre ou l'autre. Par contre, malgré les directives, il y aura toujours des exceptions, et je pense que c'est au cas par cas que ça peut être géré.
Mais en même temps, je comprends, mais c'est tellement important ce que vous nous dites, parce que là, il y a plein de gens qui nous écoutent, hein, puis qui se disent, OK, ça veut-tu dire que je peux aller au prochain rendez-vous de mon conjoint, de ma conjointe qui est suivie en onco, alors qu'il n'y avait pas...
La réponse, c'est à vérifier avec le milieu, avec le centre, parce qu'il y a des cliniques d'onco qui sont ultra froides, il y a des cliniques d'onco qui sont froides, puis il y a des endroits dans les cliniques d'onco qui sont tièdes. Donc, il y a des endroits où c'est plus facile de venir accompagner, puis il y a des endroits où c'est impossible encore, malgré ce que je vous dis actuellement.
D'accord.
Donc, ça dépend des milieux.
On va à la pause, on revient tout de suite après. Isabelle est avec nous, elle a un cancer du poumon stade 4. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien, en fait. Je viens tout juste de terminer des traitements de radiothérapie en octobre dernier. J'ai été diagnostiquée en 2018 avec un cancer du poumon stade 4, avec des métastases partout dans le corps, cerveau, foie. C'était comme un choc d'avoir ce diagnostic.
À votre jeune âge, oui, exactement.
Oui.
Oh, mon Dieu. Et depuis la pandémie, comment vous jugez les soins que vous avez reçus en oncologie?
Écoutez, c'était extraordinaire.
C'est vrai?
J'ai eu des bons soins. J'ai été prise en charge très rapidement lorsqu'on m'a dit que le cancer était revenu au cerveau en octobre dernier.
En octobre 2020, là, il y a quelques mois seulement, oui, en octobre. Exactement. Donc, on était en plein cœur de la pandémie. Là. Ouais.
Exactement. Exactement. Alors, j'ai eu un service très rapide.
Okay.
J'ai une infirmière pivot qui s'occupe de moi, qui m'a beaucoup, beaucoup supportée dans tout ça. Mmh.
Ouais, elles sont formidables, ces femmes. Ces infirmières pivot, là, c'est vraiment, ça le dit, là. C'est à fond. Elles sont le pivot de tout ça. Oui, oui. Ouais.
Exactement. Donc, j'ai eu un excellent service. J'ai fait mes traitements à Maisonneuve Rosemont, et j'ai eu un service impeccable, je dois dire.
Bon, ben ça tombe bien, le docteur Dubé va être content d'entendre ça. Puis nous aussi, Isabelle, écoutez, bonne continuation, puis merci d'avoir pris le temps de nous parler. J'espère que ça va bien se passer pour vous pour la suite.
Oui, merci.
Merci à vous, docteur Dubé. Bon, moi, ce que j'aime de notre sujet depuis une heure, c'est qu'on entend beaucoup de choses négatives là, par rapport au traitement des cancéreux depuis les derniers mois à cause de la pandémie. Puis ce matin, ce qu'on comprend, c'est qu'un patient qui a le cancer au Québec, qui est déjà dans le système, il ne devrait pas craindre pour sa vie due à la COVID. C'est ce que vous nous dites, Pierre Dubé.
Tout à fait. Je pense que le patient qui a été aux prises avec un cancer pendant la pandémie a été pris en charge avec diligence. Je ne conteste pas le fait que toute la situation a dû l'inquiéter en double et en triple. Sa situation de base était suffisamment inquiétante qu'il n'aurait pas eu besoin de ça. Par contre, la qualité des soins qu'on a probablement réussi à lui prodiguer dans la plupart des centres, je ne parle pas juste pour le CIUSSS de l'Est, je parle pour la plupart des centres, a probablement été une qualité équivalente, peut-être sans le confort habituel, avec le soutien des proches, puis etc., mais la qualité des soins, si on parle de performance scientifique seulement, a probablement été à une hauteur équivalente à ce qu'on fait d'habitude.
Sauf que là où le bas blesse, le véritable problème, c'est le diagnostic des nouveaux cancers. Qu'est-ce qu'on peut faire ici, docteur Dubé? Ça, c'est un véritable enjeu, là.
Tout à fait. Et je pense que c'est important. Puis on a tous une responsabilité là-dedans. Les médias, beaucoup. C'est-à-dire que les milieux de soins, les milieux de diagnostic sont sécuritaires pour les patients. Donc, si on a une inquiétude, si on a un problème, si on a un examen à passer, il faut y aller. Et si on ne veut pas y aller, au moins discuter avec votre médecin à savoir s'il est urgent ou pas de le faire.
Mais si on veut un rendez-vous parce qu'on a un symptôme puis qu'on s'inquiète...
Je suis probablement pas l'exception. La plupart de mes collègues ont fait la même chose. On est tous devenus extrêmement faciles à joindre. Bon, il y a sans doute des situations où c'est plus difficile ou c'est particulier, mais je peux vous dire que dans la pratique, dans ma pratique quotidienne et dans la pratique de mes collègues que je côtoie, on est extrêmement facile à joindre parce que le téléphone est devenu un outil qu'on a appris à connaître.
Oui, mais il y a la barrière de la réceptionniste ou du bureau, il y a ça. Merci, docteur Pierre Dubé, chirurgien-oncologue, gestionnaire médical du programme de cancérologie pour le CIUSSS de l'Est de l'Île de Montréal. On a été bien chanceux de l'avoir avec nous. À tout de suite après les nouvelles.